Une histoire politique d'Internet de Julien Lebotte. En 1969, on a parlé sur les réseaux. Personne ou presque ne sait raconter l'histoire d'Internet. Et je vais vous raconter pourquoi. Aujourd'hui, j'ai 4 boîtes mails, une dizaine de réseaux sociaux, des centaines de notifications par jour. Et j'ai parfois l'impression qu'Internet, qui est entré presque par effraction dans nos vies au cours des années 90, est devenu aussi essentiel que l'électricité ou l'eau courante. En un demi-siècle, Internet s'est imposé comme une nécessité, comme une évidence, et parfois aussi comme un problème, une injonction, voire une menace. Internet est partout, mais son histoire, son fonctionnement, son essence ne sont visibles nulle part. Techniquement, Internet nous relie, mais est-on sûr de ce qu'on construit ? Bienvenue dans une histoire politique d'Internet. Je m'appelle Julien Lebotte et je vous propose de remonter aux origines de ce réseau des réseaux, où l'on croisera des individus épris d'utopie et de liberté aux États-Unis, mais aussi des ingénieurs entêtés en France face au poids des télécoms, des chercheurs en ex-URSS appelés à échanger avec le monde libre, ou encore en Chine, des fonctionnaires obsédés par le contrôle de l'information. Revenir sur ces moments fondateurs, c'est essentiel pour comprendre la portée intimement politique de cette infrastructure devenue mondiale. Personne ou presque ne sait raconter l'histoire politique d'Internet, sauf peut-être Dominique Cardon, sociologue, qui travaille depuis des années sur les questions numériques. Il est pour moi l'un des meilleurs vulgarisateurs de cette histoire. La preuve, on fait souvent remonter la naissance d'Internet à la création du réseau ARPANET en 1969.
En réalité, ça commence en 61. C'est-à-dire que l'idée qu'on allait connecter les ordinateurs, elle remonte, c'est une histoire qui vient des années 50. Elle est lancée en 61 par la DARPA. Et en fait, ça a été extrêmement long de mettre en place le réseau, de le normaliser, de mettre en place les équipements, etc. Et c'est vrai qu'à partir de la fin des années 60, on commence à avoir des ordinateurs que l'on peut connecter entre eux, entre des laboratoires universitaires financés par le département de recherche de l'armée américaine, qui est la DARPA, qui avait été lancée en opposition, en relance, en pleine guerre froide, de la compétition avec la recherche soviétique, qui à l'époque paraissait brillante. Et donc en 69, quelques laboratoires, je ne sais plus exactement lesquels, mais en tout cas il y a celui de Stanford, de Doug Engelbart, il y en a un à UCLA, il y en a un à Los Angeles, l'université de l'Utah, voilà, vont connecter ensemble des machines qui obéissent à un protocole nouveau et original, qui est différent du protocole des télécommunications, qui est fait pour les données numériques qui sont en train de se mettre en place. C'est toujours compliqué. Rétrospectivement, on voit apparaître un truc qui est utilisé par la moitié de l'humanité aujourd'hui, mais eux le pensaient comme un simple outil de communication et d'échange entre chercheurs. Ils bricolaient un truc, ils avaient des bons financements pour le faire, mais ils bricolaient quelque chose pour eux. Là, en décembre 69, au moment où se font ces premières connexions, ils sont pas du tout en train d'imaginer qu'ils vont connecter toute l'histoire de l'humanité. Et dans l'histoire d'Internet, c'est très important. Les chercheurs voulaient échanger, ils voulaient coopérer, ils voulaient partager des documents, ils voulaient améliorer d'une certaine manière cette sorte de sentiment de communauté entre les chercheurs. Et ils ont fabriqué cet outil pour ça, avec des connexions en 69.
Karine Adams, depuis bien longtemps, ne se dérange plus pour faire ses courses. Elle peut consulter de chez elle le catalogue de ses fournisseurs et passer sa commande sur ce pupitre sans se déranger.
L'histoire d'Internet est peut-être celle d'une création dont personne ne soupçonnait au départ la portée. Pourtant, l'humanité s'intéresse depuis bien longtemps au concept de réseau. Valérie Schaeffer est historienne, elle documente depuis des années, inlassablement, ce que nous faisons des réseaux. Et pour elle, cette passion humaine pour les réseaux, c'est d'abord une histoire très ancienne.
Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que évidemment les communications en réseau, elles commencent pas avec Internet, et que on a toute une histoire avant très très longue dans le domaine des télécommunications et de l'informatique et des télécommunications en particulier avec le télégraphe et déjà des logiques de franchir à la fois les distances, à la fois des communications certes asynchrones mais qui permettent de communiquer, puis le téléphone, la radio, etc. On a toute une histoire des réseaux et des infrastructures, parce que j'évoque les télécoms, mais on peut remonter jusqu'à des réseaux de routes, etc., et à l'Empire romain. Et il y a un très beau texte de Jérôme Bourdon dans un ouvrage qui s'appelle Digital Routes, qui évoque l'histoire de la téléprésence et qui l'a fait remonter justement aux premiers échanges épistolaires entre les hommes et les femmes, souvent.
Internet, c'est une histoire beaucoup plus longue qu'on l'imagine. Aujourd'hui, le réseau des réseaux est une infrastructure indispensable au fonctionnement de nos sociétés. Une sorte de membrane essentielle à nos vies, captant l'essentiel de nos communications et de nos données. Mais au départ, rien n'était écrit. Et à bien y regarder, on voit que ce n'est ni le fruit d'un progrès technique purement linéaire, ni même le chef-d'œuvre d'un génie isolé. Aux premières heures du réseau, c'est une aventure humaine où l'on croise du hasard et de la nécessité. D'abord, on a eu des recherches d'ingénieurs et d'informaticiens. Ensuite, il y a un soutien financier de la part des militaires. Mais surtout, on a un contexte historique bien précis. Les États-Unis des années 1960, à un moment où l'on cherche de nouvelles voies pour réinventer la vie en société. Dominique Cardon.
Alors c'est ça qui est central. C'est vraiment ça qui est central. C'est qu'il y a une histoire militaire, il y a une histoire d'ingénieur, et puis il y a une histoire politique et culturelle. C'est la fin des années 60. C'est la côte californienne des États-Unis, le bouillon, on pourrait dire, la marmite de la contre-culture américaine. On a du coup toute une sorte de forme politique et culturelle qui va complètement imprégner l'état d'esprit des chercheurs. Et cette forme politique et culturelle, elle est très contestatrice de l'autorité, de toutes les formes d'autorité. Celle des mandarins à l'université, celle des pères dans les familles, c'est la société fordiste de l'époque, celle de la guerre au Vietnam et des militaires, le sentiment que la société est cadenassée, qu'elle est figée et qu'il faut complètement l'ouvrir. Et donc ce grand mouvement hippie, en réalité le terme c'est celui-là, et c'est bien ce qui apparaît été 67, Haight Ashbury, San Francisco, Janis Joplin, Jimi Hendrix, c'est ce grand moment-là. Menlo Park, c'est à 25 kilomètres. Et donc qui est l'endroit où se trouve l'université de Stanford, et évidemment il va y avoir des échanges extrêmement forts, et une partie de ceux qui vont participer à la naissance de la micro-informatique personnelle et d'une micro-informatique personnelle que l'on va connecter avec ce nouveau réseau ou cette nouvelle norme que les militaires ont inventé, des individus fabriquent des formes de vie, de communautés qui essayent de se débarrasser des types de domination de la société industrielle. Donc il faut être créatif, il faut contester, il faut réinventer localement des formes de vie, et c'est toute l'idée de la communauté, ou de la communauté. On a connu ça en France avec le Larzac, les Américains ont connu ça exactement entre 67 et 69, qui va se mettre en place.
En parallèle, il y a d'autres foisonnements, d'autres réseaux qui existent. Alors c'est des réseaux parfois propriétaires d'entreprises, c'est vraiment pas du tout ce que veut faire ARPANET, qui se veut un réseau justement ouvert, connectant des machines de constructeurs différents. Mais il y a aussi en parallèle toute une histoire qui est celle effectivement des premières communautés virtuelles et autres, et qui là se réfère à d'autres généalogies.
Plus on creuse dans cette histoire politique d'Internet, et plus on mesure ce que les pionniers des réseaux, quels qu'ils soient, ont cherché. Un refuge, un lieu à part, un espace d'un genre nouveau à l'intérieur duquel on peut repenser la relation à l'autre. Comme si, au fond, la clé de l'émancipation pour le genre humain se trouvait à l'intersection de nos sociétés et de la technologie.
Donc ce qui est très frappant dans l'histoire de la micro-informatique personnelle qui va naître, c'est qu'effectivement, ce sont des gens qui ont un pied dans la communauté et un pied dans l'informatique qui vont fabriquer les premiers ordinateurs personnels. Bon, on le sait pour Wozniak et Jobs qui vont fabriquer l'Apple 1. Alors ça sort en 74, mais c'est cet esprit-là qui est progressivement mis en place, avec l'idée centrale qu'il faut redonner du pouvoir aux individus et qu'on fait la politique par la communauté. On l'a fait par le bas, c'est-à-dire ces hippies s'opposaient aux gauchistes. Les gauchistes voulaient faire des manifs contre Nixon, prendre le pouvoir, aller à Washington. Enfin, ils étaient obsédés par la politique. Eux étaient obsédés par l'idée que ça sert à rien de prendre le pouvoir si on ne sait pas transformer soi-même. Et donc, ils sont partis avec cette idée que la première chose à faire, c'était une sorte de révolution intérieure, d'une révolution locale, d'une révolution du lien avec les autres, avec les proches. Et que l'ordinateur, et ça c'est une proposition qui était dans l'histoire de l'informatique, pouvait être un outil pour augmenter les personnes et pour favoriser cette nouvelle ouverture à l'autre. Donc l'ordinateur, c'est une prothèse sur l'esprit. C'est une bicyclette pour l'esprit, ça c'est une formule de Steve Jobs qui a toujours été importante, qui vient augmenter la capacité à me lier à des informations et aux autres. Et donc il y a cette idée que finalement on fait la politique, on peut changer la société sans prendre le pouvoir. On peut changer la société en s'équipant d'une infrastructure de communication, d'échange et d'informations qui va être un outil d'empowerment, alors d'incapacitation, on dit, à la fois individuel et collectif. Mais ce collectif, c'est pas les États-Unis, c'est pas, voilà, c'est localement, dans les liens sociaux, dans les centres d'intérêt qu'on va développer et dans la créativité et l'énergie qu'on va mettre dans cette nouvelle fabrication d'un réseau qui lie entre eux des individus connectés ou des machines connectées, en réalité.
Une perspective fascinante en parfait décalage avec nos inquiétudes contemporaines. Comme si ce réseau des réseaux, inventé en pleine euphorie hippie, s'était transformé au XXIe siècle en as pour les individus. Au départ, il s'agissait de créer un outil au service de l'émancipation des individus, là où, aujourd'hui, on a l'impression d'avoir un système de contrôle de nos vies et de nos données. Comme si, finalement, l'utopie des débuts avait débouché sur un cauchemar totalitaire. Comme si, au bout du compte, la surveillance dont on parle tant depuis les révélations d'Edward Snowden était l'envers de ce songe rêvant de communion des esprits sur les réseaux et la rançon, finalement, de son succès. En 2021, nous sommes plus de 3 milliards d'individus sur le réseau. La moitié de l'humanité n'est pas encore connectée. Et ce que je peux vous dire à ce stade, c'est qu'on est encore loin d'avoir compris où cette histoire nous embarquait.
C'est en plus d'autant plus compliqué qu'on est face à un réseau des réseaux qui va rapidement devenir global, ou en tout cas alors couvrir inégalement et avec des rythmes différents les différentes parties du monde. Mais en fait, chaque pays a d'une certaine façon aussi une histoire nationale des infrastructures et même des politiques qui accompagnent le déploiement d'Internet. Et du coup, on est effectivement dans une histoire qui, à l'image du réseau des réseaux, doit savoir à la fois avoir une espèce de narration générale et puis en même temps se connecter à une multitude d'échelles nationales, plus locales, etc. pour finalement prendre sens.
Ce qui s'est passé, c'est que dans les premiers usages, qui sont très maigres, il faut bien se dire qu'on est dans une petite affaire à l'époque, on avait à la fois des possibilités de communication entre militaires, mais c'était plutôt un prototype pour eux, et puis des chercheurs qui se mettaient à se lancer, à discuter de recherche, mais aussi à envoyer plein de thèmes de discussion sur des sujets qui étaient plus liés à la contre-culture, à des blagues de chercheurs, etc. Et du coup, l'armée s'est dit à un moment, mais il faudra attendre 1983, qu'il valait mieux séparer un réseau militaire, qu'on a appelé Net pendant un temps, mais le nom n'est jamais resté. Et puis le réseau qui avait été créé de l'ARPA, et on va l'appeler Internet. À l'origine, en fait, personne ne l'a appelé Internet, il même devait s'appeler NSFNet, qui était le nom de la grande agence de recherche américaine publique, là, pour le coup, et pas militaire. Et puis NSFNet n'est jamais resté, et c'est Internet qui a gagné la bataille en 83.
Mark Ullman, journaliste.
Je crois finalement que c'est vraiment le réseau en tant que réseau qui sera passionnant. C'est-à-dire,
1994.
Je sais pas, moi, vous avez une ferme dans le Poitou, moi j'ai un appartement à Miami, pourquoi diable passer par des agences de location ? C'est-à-dire qu'on pourra le faire directement, donc ça change tout.
Si tout le monde sait qu'Internet est une création en grande partie made in USA, on ignore le plus souvent ce que ce réseau des réseaux doit à la France. Mais surtout à un personnage haut en couleur et à un réseau qui a fait ses preuves, Cyclades. Cyclades, la France a failli inventer Internet. Internet n'est pas une invention purement américaine. Cyclades, c'est le nom d'une sorte d'ARPANET à la française, autrement dit un autre ancêtre d'Internet. De 1972 à 1978, une équipe de chercheurs réunie autour de Louis Pouzin a mis en place, en France, un réseau informatique reliant des ordinateurs répartis dans diverses institutions de recherche. Pour bien comprendre ce que Cyclades a changé, le chercheur Kaveh Salamatian est l'un de ceux qui comprend le mieux le fonctionnement d'Internet.
Donc, aux États-Unis, mais en Angleterre, mais aussi en France, on commence à avoir un certain nombre de projets de communication entre ordinateurs qui vont se mettre en place. La caractéristique de ces communications entre ordinateurs, c'est que, à la différence de la communication téléphonique, elles n'ont pas besoin de reconstruire le réseau téléphonique, de simuler le réseau téléphonique. Elles peuvent se faire par le biais de transmission de bits d'information. Et c'est-à-dire que le concept de paquet ou de datagramme arrive de façon assez naturelle dès l'instant où vous ne voulez plus faire de la communication téléphonique et vous voulez faire de la communication de données entre ordinateurs.
Il faut du temps, aujourd'hui encore, pour comprendre ce que le concept de datagramme peut avoir de révolutionnaire. L'historienne Valérie Schaeffer a écrit sur l'histoire d'Internet, du Minitel et des relations complexes entre les télécoms et les informaticiens en France. Elle nous l'explique simplement.
Alors le datagramme qu'on oppose souvent à ce qu'on appelle les circuits virtuels, c'est l'idée de découper une information en petits paquets pour les faire circuler dans le réseau. Donc ça, c'est la commutation de paquets. Après, on peut choisir de faire suivre à tous les petits paquets d'un message le même chemin. Ils se suivent entre guillemets à la queue-leu-leu jusqu'à leur destination. Ou alors, avec le datagramme, eh bien, on les lance dans le réseau et ils se débrouillent. Et ils vont aller de nœud en nœud, choisir le chemin le plus rapide ou celui qui est le plus disponible. Pour arriver à destination, ils sont munis sorte d'étiquettes, d'entêtes qui permettent à la fin de les rassembler tous dans le bon ordre et de reconstituer le message.
Et j'ai regardé ce qui avait été fait de par le monde et j'ai vu que
Louis Pouzin,
il n'était pas du tout nécessaire que l'on vérifie, que l'on livre les informations au destinataire sans erreur. C'est là où on perd beaucoup de temps. Il suffit en fait d'avoir un deuxième protocole qui, lui, est géré entre l'ordinateur émetteur et l'ordinateur destinataire, ce qu'on appelait le bout en bout. Alors donc, on livre des paquets, mais on peut en perdre, on peut en dupliquer, mais aussi on peut les livrer par plusieurs chemins, ce qui était un avantage que n'avaient pas les techniques précédentes. Et ce sont les deux ordinateurs qui, de part et d'autre, vérifient qu'ils ont bien reçu. S'ils n'ont pas tout reçu, transmettre. C'est beaucoup plus simple à faire et ça marche.
C'est l'image que prend Louis Pouzin, c'est celle par exemple d'une salle de théâtre avec l'idée que pour former un rang, soit les spectateurs pourraient être installés les uns après les autres, celui qui a la place 10 s'installe, puis 9, puis 8 et à la fin on a un rang, ou alors on laisse les spectateurs arriver dans le désordre, s'installer à leur place et à la fin le rang est constitué également. Donc c'est un peu ça, pour prendre une image, l'idée des datagrammes et le réseau Cyclades à l'Institut National de Recherche en informatique et automatique, donc à l'INRIA, va être le premier à faire la démonstration en grandeur réelle que les datagrammes, ça marche, mais dans un réseau qui est un réseau alors vraiment destiné à la recherche.
Louis Pouzin est l'un des contributeurs clés dans l'invention de ce que va devenir Internet, à savoir un réseau des réseaux. Cet ancien élève de l'école polytechnique, formé dans les télécoms français, s'intéresse surtout à l'informatique. À l'époque, ce n'est pas la voie royale. Or, le datagramme, c'est précisément ce qui va révolutionner nos communications en nous émancipant peu à peu des logiques traditionnelles des télécoms. Kaveh Salamatian.
Louis, parce qu'il faut bien prendre en compte que même jusqu'à très tard, même jusque dans les années 90 en France, l'informatique a été vue comme un sous-cas des mathématiques, un cas non intéressant des mathématiciens. Et donc, il ramène d'une part le premier point de vue, c'est que l'informatique, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qui vaut la peine pour un polytechnicien de travailler sur ça. Deuxième chose qu'il ramène, c'est l'expérience de l'utilisation de cette informatique dans le domaine des télécoms. Et le concept de datagramme qui existait de façon pas très bien définie, mais de façon assez volatile, lui va être le premier à le formaliser. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que Louis Pouzin est l'inventeur du datagramme. Alors, le datagramme, c'est concevoir la communication comme l'envoi de paquets de données ensemble qui vont être traités de façon indépendante les unes des autres. À la différence de la transmission de la voix, où il y a un flot de données qui doit être transmis. C'est pas un élément discret. Dans la transmission de voix, il y a un flot continu de voix, de paroles, qui doit être transmis, tandis que dans le datagramme, vous définissez ça comme élément discret, un ensemble de données qui sont mis dans un paquet, qui sont empaquetés l'un avec l'autre, et qui vont avoir un certain nombre de caractéristiques, enfin, on va avoir une en-tête et éventuellement une fin de paquet, mais qui vont être vus comme un élément logique. C'est-à-dire la transformation de la communication de quelque chose d'analogique en flot en quelque chose de discret sous forme d'information.
En faisant le pari du datagramme pour gérer la circulation de tous les paquets d'informations au sein de ce réseau, Cyclade va prouver par A plus B que cette méthode fonctionne. Une belle victoire pour ces pionniers de l'informatique. Pourtant, à un moment donné, la France décide de cesser de financer ce projet de recherche. Le réseau Cyclade n'est plus sa priorité. Valérie Schaeffer.
Alors, 78-79, en effet, et 72, c'est la première démonstration publique. Mais ce réseau, effectivement, il aura eu une longévité assez... intéressante pour ce qui au départ est un projet pilote, hein, donc un projet expérimental, mais courte au regard effectivement des développements qui étaient en cours. Les arguments, là c'est des batailles hein, qui sont à la fois politiques, industrielles, institutionnelles, sur fond effectivement aussi de développement en parallèle hein, du réseau Cyclade et du réseau Transpac côté télécom. Donc est-ce que la France a la place pour plusieurs réseaux, en tout cas du côté politique et financier? La réponse sera non. Ça s'arrête en 78-79, hein, toute fin 79, avec un argument qui est il faut passer entre guillemets à autre chose, soit une reprise industrielle, soit des développements. Le réseau marche parfaitement, mais voilà, les financements s'arrêtent, faute de volonté en partie politique, mais faute aussi de reprise industrielle, parce que le paysage industriel français a énormément bougé entre le lancement de Cyclade, qui devait soutenir une compagnie qui s'appelait la Compagnie Internationale Informatique, qui devait lancer la France sur le devant de la scène informatique internationale. Et puis 79, où c'est terminé, on est avec un mariage C2I au Néo-Elbul. La délégation à l'informatique qui a lancé le projet Cyclade a disparu sous Giscard d'Estaing. Il y a eu des changements à la fois politiques, industriels, institutionnels, et donc un manque de financement. Et quand on dit financement, derrière, c'est aussi de volonté de financer hein, pour faire vivre Cyclade.
Mesdames, messieurs, le débat entre les deux candidats à l'élection présidentielle, M. Valéry Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand, ouvre la campagne électorale à l'ORTF pour le second tour de cette élection.
1974.
Et dans cette élection présidentielle, si je représente quelque chose, si je crois à quelque chose, c'est à l'avenir de la France. C'est ça qui m'intéresse. Alors à propos de cet avenir, je dirais ceci. Pour ma part, je souhaite que la France ne prenne pas pour elle et pour les Français un risque qui peut être mortel. Le fait de bouleverser profondément notre vie politique, notre vie économique, notre vie sociale, c'est pour un pays qui est encore un pays fragile. Parce que la France est un pays fragile. C'est un risque qu'on ne peut pas prendre. Et donc, ce que je propose à la France, c'est en effet le changement, mais c'est le changement qui exclut le risque. Et il ne faut pas croire que le choix que les Françaises et les Français vont faire, c'est un choix qu'on peut...
L'un des enjeux de cette histoire, finalement, c'est le contrôle. Du côté des télécoms, c'était une question de métier. On fournissait un réseau, voire l'équipement qui va avec, on pouvait garantir le service et facturer facilement la consommation. Or, ce que Cyclade prouvait, c'est qu'on pouvait changer de modèle. Alors, forcément, ça n'a pas plu à tout le monde. Et la leçon de l'histoire ?
Oui, il y a une leçon fondamentale à apprendre. Et la leçon fondamentale, elle est dans l'institutionnalisation scientifique. Il ne faut pas oublier l'importance des institutions scientifiques dans qu'est-ce qui peut être accepté comme, laquelle des idées disruptives peuvent être acceptées ou pas. En France, nous avons une structure institutionnelle, scientifique et technocratique qui est extrêmement rigide. Et la leçon qu'il faut bien prendre là-dedans, c'est que le domaine scientifique ne peut pas être totalement dirigé par l'État. L'intelligence, elle est dans le réseau et l'intelligence est dans les gens qui font la recherche.
L'enjeu de cette histoire n'est pas de savoir si la France a failli inventer Internet. Et c'est une question qui n'a pas tellement de sens. Mais pourquoi n'a-t-on pas compris en France ce que le datagramme changeait alors qu'on l'avait sous les yeux ?
Alors lui est d'une part le produit de la méritocratie française, il a fait polytechnique, il est ingénieur polytechnicien. Et à la différence de beaucoup d'autres ingénieurs polytechniciens qui, du moment que vous avez fait polytechnique, vous n'avez plus besoin d'aller voir qu'est-ce qui se passe autre part, a fait l'expérience d'aller voir ce qui se passe autre part. Et ça, c'est vraiment à mettre au crédit de Louis. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est que Louis, bon, aujourd'hui, il habite en Bretagne. Et donc, il est, on pourrait très bien le caractériser par rapport à un autre héros bien français qui est notre fameux Astérix. C'est la personne qui est dans son village et qui a un avis tranché et qui ne se laisse pas compromettre. L'histoire lui a donné raison et il a eu ce rôle de transmission à toute une génération de ces concepts-là. L'Internet aujourd'hui, et d'ailleurs dans toute son histoire, a été, et d'ailleurs toutes les technologies sont comme ça, vous avez une lutte de pouvoir permanente entre les différents parties prenantes. Et vous avez un point de vue je dirais très idyllique, très idéalistique, qui est de dire que l'Internet doit être un environnement distribué sans aucun contrôle, sans aucun acteur primordial et autres. Et puis d'un autre côté, vous avez des acteurs qui vont essayer de prendre une position dominante là-dedans. Louis est vraiment dans la position de dire que l'Internet doit rester cet Internet décentralisé, sans aucune possibilité d'avoir un contrôle centralisé. Et ça va à l'encontre d'un certain nombre d'évolutions qu'on est en train de voir aujourd'hui et dont je pense qu'on va parler dans le cadre d'un certain nombre de pays dans la suite.
La technologie Internet va forcément disparaître un jour ou l'autre. Qu'est-ce qu'on aura à la place ? Je n'en sais rien. Mais il y aura probablement des moyens de communication beaucoup plus sophistiqués, performants.
Oui, plus un, 2013.
Éventuellement dangereux, je n'en sais rien. Donc déjà, de ce point de vue-là, il faut savoir que tout meurt et la technologie actuelle va mourir. Mais d'un autre côté, c'est intéressant, parce que ça donne du travail au cerveau, justement. Je dirais que l'Internet, pris dans son ensemble, hein, parce que là, je trouve que l'Internet, ça veut dire un peu n'importe quoi. Mais disons, l'Internet, que ce soit le système de communication, que ce soit les applications, c'est un domaine dans lequel il y a en permanence des nouveautés. Donc pour des gens qui sont jeunes et qui sont curieux et qui ont envie de faire quelque chose d'intéressant dans leur vie, donc ils peuvent se lancer là-dedans, ils ne seront pas déçus.
Les pionniers des réseaux ont rêvé d'un espace décentralisé, ouvert, libre, capable de faire émerger la vérité plutôt que de la voir tomber d'en haut, imposée par un gouvernement ou un politburo. Un credo peu compatible avec la Pravda des soviets.
Vous écoutez France Culture.
Internet au pays des soviets. À l'ouest, une quête de liberté est perdue. La cybernétique est en vogue, l'époque est à la libération de l'information. À l'inverse, en URSS, on a la hantise de l'individu et de la circulation de l'information. Inutile dès lors de permettre à chacun de faire circuler ses messages. Les photocopieurs, par exemple, sont suspects. Il faut une accréditation spéciale pour y accéder. Dans ce contexte, l'apparition de l'informatique pose bien des dilemmes au cadre du Parti communiste. Le chercheur Kevin Limonier écrit sur le cyberespace russophone. Il nous l'explique simplement.
Il faut savoir que l'informatique que les soviétiques appelaient la cybernética, la cybernétique, a été longtemps l'objet d'un anathème idéologique, puisque sous Staline, par exemple, la cybernética était considérée comme une science bourgeoise. Alors qu'est-ce que ça veut dire une science bourgeoise ? Disons que l'informatique était considérée comme une technologie aliénante dans une société où on pensait construire l'avenir radieux du communisme et qu'il était hors de question de s'aliéner les ordinateurs. Ça, c'est la version officielle, c'est ce qu'on pouvait voir dans la Pravda, c'est ce que d'ailleurs la Pravda traînait en ridicule des gens comme Alan Turing, comme l'entreprise IBM, en disant voilà, c'est de la pseudo-science bourgeoise, ça marchera jamais, ou alors c'est voilà un nouvel outil d'asservissement du travailleur, etc. etc. Sauf que en fait, dès 45-46, on a des projets de recherche en informatique qui débutent en URSS dans le plus grand secret, dans ce qu'on appelle des charashkas, ce sont des laboratoires pénitentiaires qui dépendaient du goulag. Je conseille de lire le roman de Solzhenitsyn, Le Premier Cercle, où il raconte son expérience de chercheur dans une charashka, où il était intégré à une équipe de scientifiques qui travaillait en 46-47, je ne sais plus exactement, à un système de reconnaissance automatique de la voix et des conversations téléphoniques. Staline meurt en 53. Là, il va y avoir une libération sous bien des aspects, hein, c'est-à-dire qu'on va fermer les charashkas, c'est-à-dire qu'on va fermer les laboratoires pénitentiaires, et les scientifiques soviétiques, qui étaient donc des prisonniers politiques, hein, vont être pour la plupart libérés. Et à partir de 56-57, on va avoir ce qu'on a appelé alors la révolution scientifique et technique en URSS, où là, le pouvoir va véritablement prendre conscience que s'il veut de l'innovation, s'il veut avancer, s'il ne veut pas décrocher complètement dans la course aux technologies avec les États-Unis, il va falloir donner de l'argent à la recherche, mais il va surtout falloir arrêter de contraindre les gens. Et donc on va passer des laboratoires pénitentiaires à ce qu'on va appeler des villes fermées, Naukograd, des villes scientifiques, qui sont en fait des campus fermés où les gens travaillent dedans dans un environnement extrêmement privilégié. Ils ont accès à pas mal de choses, même parfois à des films qui sont censurés ailleurs en URSS. Et là, l'informatique en URSS va connaître un véritable boom, c'est-à-dire que dans les années 60-70, ça va être un véritable âge d'or de l'informatique soviétique, au point que, à un moment, on a pu considérer que les soviétiques avaient pris une certaine avance sur les Américains, notamment, alors c'est ce que disent les Russes, hein, après il faudrait vérifier, mais j'ai souvent entendu cette histoire qui consiste à dire que lors de l'amarrage de la mission Apollo-Soyuz, donc vous savez, le vaisseau russe et le vaisseau américain se sont amarrés en orbite et chacun avait calculé ses trajectoires d'orbite. Et les Russes sont très fiers de dire que leurs ordinateurs avaient réussi à calculer les trajectoires orbitales en quelques minutes lorsqu'il en a fallu une demi-heure aux Américains pour le faire.
Mission Apollo-Soyuz 1975. Si l'informatique soviétique a fini par s'imposer en URSS, Internet est en revanche arrivé par la fenêtre au pays des soviets. En 1982, l'Union soviétique est loin de l'agitation suscitée par les premières téléconférences. C'est la fin de l'ère Brejnev, l'armée s'enlise en Afghanistan et la nomenklatura pourchasse les dissidents. Pourtant, un beau jour de printemps, l'Académie des sciences reçoit une invitation et décide d'envoyer un camarade chercheur sur le net.
Klyosov, qui est toujours vivant, un chercheur en biologie, qui venait de faire un séjour, je crois que c'était à Harvard, dans une grande université américaine, et qui revient en Union soviétique après ce séjour de recherche, et qui, comme beaucoup de personnes qui reviennent de l'étranger après un séjour, eh bien, se voit confisquer son passeport extérieur, voilà, bon, on va éviter que cette personne ait des envies de repartir, ou ce genre de choses, et donc il est un peu placardisé, comme ça. Et puis un jour, il reçoit un coup de téléphone de son chef, qui lui dit, écoute, j'ai eu un ordre en haut lieu, il faut que tu passes, je vais t'expliquer, donc il va et son chef lui dit voilà, il se trouve que en très haut lieu, on sait pas où, quelqu'un a dit que c'était pas normal que l'Union soviétique ne soit pas présente sur ce qui était à l'époque ce qu'on appelait les téléconférences, qui étaient en gros des conférences en ligne. Alors, c'était complètement novateur, hein. Et l'Union soviétique n'avait jamais participé à ça. C'était un truc qui était très très employé dans certaines disciplines académiques par les Américains, par les Européens, mais pas du tout par les Soviétiques. Et donc quelqu'un en haut lieu a dit c'est pas normal que la patrie des Soviétiques ne soit pas présente là-dedans. Donc on va essayer de faire en sorte ordre d'envoyer quelqu'un. Et ils ont pensé à Kliosov parce qu'il revenait de Harvard, il avait justement appris à se servir des systèmes d'exploitation qui permettaient de se connecter, et on lui dit, bah voilà, tu vas te connecter. Donc pour te connecter à une téléconférence, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller à l'Institut des communications, qui est dans le centre de Moscou, tu vas te présenter, et on va te donner accès à un ordinateur connecté avec un modem. Il faut savoir qu'il est connecté à ce qu'on estime être un des deux seuls modems qui existaient à l'époque en Union soviétique, puisque les modems, l'Union soviétique n'en produisait pas. Et à l'époque, les États-Unis d'Amérique avaient mis en place un embargo sur les matériels informatiques à destination de l'Union soviétique. Donc on ne sait pas comment ces modems sont arrivés en URSS, mais ils sont arrivés certainement par voie un petit peu clandestine ou détournée. Et donc, Kliosov a la chance de se connecter sur cet ordinateur et ce modem. Il fait son affaire dans sa téléconférence, bon, et il sympathise avec le patron de cet institut de communication qui lui dit, écoute, moi j'ai cet ordi, je sais pas quoi en faire, toi tu sais t'en servir si tu veux, tu peux venir quand tu veux l'utiliser, moi ça m'intéresse d'avoir quelqu'un qui sait utiliser ce truc-là, comme ça pourra toujours servir, voilà. Donc lui, il accepte. Et puis, bah, il commence en fait à utiliser l'ordinateur pour faire tout autre chose que sa téléconférence. L'amusant, c'est qu'il a pu faire ça dans un endroit qui était surveillé par des régiments entiers, des services de sécurité soviétiques, et il explique lui-même que, en fait, il a lié des amitiés, voilà, avec des Américains, des Européens. Donc, ça va durer quelques années, cette histoire. Il va même réussir à publier des articles universitaires aux États-Unis, sous pseudonyme, bien évidemment, qu'il enverra donc via cet ordinateur, via Internet, en fait, à une époque, il faut le rappeler, où le rideau de fer est encore extrêmement solide, au point que les grands dissidents de l'époque, Solzhenitsyn, Sakharov, pour passer des manuscrits à l'Ouest, les passent dans des fonds de valises. Des gens passent les frontières au péril de leur vie.
Anatoli Kliosov a peut-être eu le privilège d'être le premier soviétique sur le net. Il n'en a pas moins été très chanceux. Et il a eu très peur, comme il l'a raconté plus tard. Quelques années après cette expérience pionnière, c'est un tout autre personnage qui va précipiter la naissance, à proprement parler, de l'Internet soviétique.
Alors, autant Kliosov était un électron libre, je veux dire, c'est une anecdote, mais qui permet de comprendre que le pouvoir soviétique ne maîtrisait absolument pas à l'époque les enjeux de la sécurité de l'information. C'était quelque chose qui les dépassait complètement parce que c'était un problème qu'ils n'avaient absolument pas anticipé. Autant Kliosov est une anecdote, autant Soldatov, c'est le début vraiment là de l'Internet soviétique, de l'Internet russe et de ce qu'on appelle le Runet aujourd'hui, c'est-à-dire le segment russophone de l'Internet. Donc Soldatov était un ingénieur au sein de ce qu'on appelle l'Institut Kurchatov de recherche nucléaire, qui est le grand institut de recherche sur le nucléaire. Et on est donc à la fin des années 80. La situation en URSS est pas terrible économiquement. Beaucoup de gens cherchent à arrondir leur fin de mois. Les magasins sont vides. Et comme beaucoup de citoyens soviétiques à l'époque, Monsieur Soldatov se demande comment est-ce qu'il peut arrondir ses fins de mois. Il va avoir une idée géniale qui consiste à obtenir ce qu'on appelle une ligne téléphonique automatique. Il faut savoir qu'en URSS, pour passer des appels internationaux, vous êtes obligé de passer par des opérateurs qui va vous brancher physiquement sur un réseau. Ce n'est pas une ligne automatique, c'est une ligne avec opérateur manuel. Des lignes automatiques en URSS, il y en a peu. Et ces lignes automatiques qu'on appelle vertushka, c'est le nom qu'on leur donne, sont généralement dédiées aux membres vraiment de la nomenklatura, c'est-à-dire l'élite du parti. Donc, Soldatov a cette idée géniale de demander à sa hiérarchie une ligne téléphonique automatique. On est à la fin des années 80, c'est ce genre de choses qui peuvent se faire. Il obtient sa ligne téléphonique automatique. Mais pourquoi est-ce qu'il demande une ligne téléphonique automatique, ce Soldatov ? Eh bien parce que il a réussi à obtenir un modem, il a réussi à obtenir un ordinateur qui va brancher sur cette ligne automatique et grâce à ce matériel connecté directement à l'étranger, notamment un serveur qui était situé à Helsinki en Finlande, il a créé le premier fournisseur d'accès Internet d'Union soviétique. C'était quelque chose qui était possible. La perestroïka avait autorisé dès 86-87 la petite libre entreprise. Donc Soldatov va créer en fait sa PME. Il va brancher son ordinateur sur sa ligne téléphonique de son employeur, ce qui aujourd'hui serait pas très légal en fait, hein, puisqu'il va utiliser les moyens de l'État pour faire un commerce privé. Mais enfin bon, on est quand même dans l'URSS de la fin des années 80, il y a pas que ça qui était pas légal. Hein. Et il va vendre des abonnements. Il va vendre des abonnements, c'est-à-dire que toute personne ayant, puisque les choses ont évolué depuis l'époque de Kliosov, hein, il commence à y avoir des ordinateurs avec des modems, il commence à y avoir ce genre de choses en URSS, très peu, mais enfin quand même. Et donc il va vendre de la bande passante, en fait, il va vendre un accès à l'Internet mondial, c'est-à-dire à ce qu'il y a de l'autre côté du rideau de fer, via sa machine et via cette ligne téléphonique qu'il avait ironiquement surnommée la fenêtre sur l'Europe, en fait, parce que c'était le nom qui était donné à Saint-Pétersbourg par Pierre le Grand, c'est-à-dire voilà cette fenêtre qui permet de faire rentrer la modernité dans une Russie qui était engoncée dans son carcan médiéval. Donc c'est un peu une espèce de métaphore hein, sur la fin de l'Union soviétique et sur le fait qu'il faut faire rentrer la modernité occidentale.
Cette anarchie des débuts du Runet, le segment russophone de l'Internet, n'a pas été sans conséquence sur la suite de l'histoire des réseaux en Russie. Elle a même un impact, aujourd'hui encore, sur les services en ligne utilisés par les internautes russes qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Ce retard à l'allumage des autorités russes rend, aujourd'hui encore, toute tentative de contrôle par le gouvernement extraordinairement complexe.
Absolument, la Russie est le seul pays du monde, à l'exception de la Chine, à avoir un environnement quasi complet de ce qu'on appelle de plateformes d'intermédiation qui ne sont pas des plateformes d'intermédiation occidentales et qui sont massivement utilisées dans le pays. Et je dirais que c'est un exemple unique au monde parce que en Chine ça existe, mais ça existe parce que le réseau chinois est censuré. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder à des plateformes occidentales, vous ne pouvez pas accéder à Twitter par exemple ou ce genre de choses. Donc il a bien fallu développer des alternatives en interne. En Russie c'est absolument pas le cas. Vous avez Vkontakte par exemple, VK qui est l'équivalent russe de Facebook, hein, Yandex qui est l'équivalent russe de Google, vous avez Mail.ru, bref, vous avez tout un tas de groupes qui ont aujourd'hui pignon sur rue, qui sont extrêmement populaires, plus populaires que leurs concurrents occidentaux, et qui symbolisent vraiment ce Runet, cet Internet russophone, qui est caractérisé par la pratique commune d'une langue, mais pas seulement, mais aussi par l'existence de ces plateformes. Les plateformes sont nées dans... le chaos entre guillemets des années 90-2000, à une époque où le pouvoir se désintéressait totalement de la question numérique. Le pouvoir russe a commencé sérieusement à s'intéresser aux questions numériques à partir de 2010, 2011, 2012. Avant ça, c'est quelque chose qui les intéressait absolument pas, et donc tout ça s'est développé à côté des intérêts du pouvoir qui, eux, étaient portés sur des questions de vente militaro-industrielle, exploitation gazière, ce genre de choses. Le secteur des hautes technologies ne les concernait absolument pas, ils ne les intéressaient absolument pas. Ces plateformes ont réussi à se développer tout simplement parce que dans les années 90-2000, la Russie était un pays qui faisait fuir les investisseurs occidentaux, pays peu fiable, peu sûr, beaucoup de corruption. Et surtout, une très mauvaise connexion avec le reste du monde et notamment le monde occidental. L'Internet russe, jusqu'en 2005 à peu près, notamment 2005, c'est l'inauguration des grandes dorsales fibre optique qui vont permettre de décloisonner le pays, en fait, qui vont de Londres à Shanghai en passant par le transsibérien. Avant cette date-là, en fait, l'Internet russe va un peu évoluer en vase clos.
En Russie, une loi qui permet à l'État de contrôler Internet vient d'entrer en vigueur. Votée au printemps dernier, elle autorise le Kremlin à bloquer l'accès à des serveurs étrangers et à surveiller tous les contenus.
Journal d'Arte, 2019.
Le but de cette loi est de mettre en place un Internet fiable qui continuera de fonctionner en cas d'ingérence extérieure, comme des attaques massives de hackers ou en cas de cyberattaque de l'étranger.
Si la Russie de Vladimir Poutine a mis du temps avant de considérer le cyberespace comme un lieu d'affirmation de sa puissance et de sa souveraineté, la Chine, elle, a dès sa première connexion, fin des années 90, très clairement marqué son territoire. La Chine, Internet et la Grande Muraille. En Chine, tout a commencé aussi avec des chercheurs. Mais sans hippie, sans naïveté, sans utopie. Dès le départ, Pékin a pris très au sérieux cette histoire de connexion généralisée. À ses yeux, le réseau n'est pas un espace de non-droit, et encore moins un Far West. La lente et irrépressible montée en puissance de la Chine sur le net s'est faite de manière extraordinairement méthodique, avec une perspective en parfait contrepoint des doux rêves de la cybernétique. Si San Francisco a innové sous LSD, Pékin n'a eu dès le départ qu'un modèle en tête, le panoptique. Le chercheur Kaveh Salamatian, qui a bien connu les premières heures du cyberespace chinois, sait remettre ça en perspective.
Alors, l'Internet a commencé à diffuser partout en Asie par le biais des universitaires. C'est-à-dire, les universitaires ont réussi à avoir des bourses pour aller aux États-Unis. Revenant dans leur pays, au Japon, à Singapour et autres, ont commencé à vouloir avoir une connectivité à ce réseau et avoir continué à avoir l'accès aux mails et continuer à avoir l'accès aux services. C'est cette dissémination qui s'est faite. En Chine, à ce moment-là, vous aviez très peu de personnes, de chercheurs chinois qui allaient aux États-Unis et qui revenaient. Donc, le transfert ne s'est pas fait par cette voie-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas anecdotique de se rendre compte que l'Internet arrive en Chine, non pas par la voie américaine, ce qui est le cas dans la plupart des autres pays, mais par une voie allemande. C'est un chercheur chinois qui allait faire une thèse en Allemagne qui va mettre en place la première communication entre la Chine et une université à Karlsruhe, si je ne me trompe pas, et va donc en 1988 va mettre en place cette première communication. Et cette première communication se fait là aussi avec l'idée que on ne peut pas se permettre d'être à l'écart de la totalité de ce réseau. Et le premier test qui est effectué, c'est un mail écrit en chinois de l'université de Beijing, la Peking University, vers l'Institut Karlsruhe, qui a la traduction suivante. Nous, ici, derrière la Grande Muraille, nous pouvons accéder au monde. Et cette phrase, qui est la première phrase envoyée de Chine vers l'Internet, reste aujourd'hui le pilier, le béaba de la cyberstratégie chinoise. La Chine et derrière la Grande Muraille, donc c'est quelque chose qui est séparé du reste, qui est protégé du reste, mais elle veut accéder au monde. Donc la Chine, dès l'arrivée de l'Internet, le gouvernement chinois a considéré l'Internet comme une question politico-scientifique. C'est-à-dire, vous aviez d'une part le fait que vous aviez un outil de communication qui arrivait, donc c'est un problème politique. Mais en même temps, c'est la Chine a besoin d'avancées technologiques et donc vous avez eu dès le début de l'arrivée de l'Internet en Chine cette conscience profonde du niveau politique chinois qui est il faut contrôler l'Internet, mais en même temps il faut y être. Dès le début de la conception de l'Internet chinois, vous avez séparé ce qui est à l'intérieur de la Chine de ce qui est à l'extérieur de la Chine. Et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui le grand pare-feu. Donc les outils de censure et de contrôle. Mais ces outils de censure et de contrôle ont été mis en place dès le début.
Le contrôle n'est pas nécessairement l'enfermement. La Chine est connectée au reste du monde, mais en restant vigilante. C'est une autre philosophie du lien que Pékin promeut. Quand deux internautes s'écrivent, il faut qu'ils le sachent, leurs destins sont liés. La conversation les engage, libre à eux, ensuite, de se comporter en citoyens responsables. Kaveh Salamatian a pu le constater aux premières heures du net chinois.
Pour avoir parlé avec des acteurs qui ont développé la censure en Chine, l'objectif de la censure chinoise, à la différence de l'objectif de la censure dans d'autres pays, n'est pas de garantir une étanchéité complète. L'objectif, c'est de définir des lignes rouges. Donc, vous pouvez très bien recevoir un mail de Louis Pouzin en Bretagne et ce mail ne soit pas lu. Mais si vous recevez un mail et le mail a quelque chose de problématique sur un certain nombre d'éléments qu'on connaît au niveau de la Chine, par exemple, si vous envoyez un mail pro-Tibet en Chine, et que derrière, le récepteur chinois est invité à boire le thé, ce qui veut dire est invité, s'il est membre du comité du parti, par la commission d'éthique du parti, ou s'il n'est pas membre, par la police, au moins il sait pourquoi il a été convoqué. Donc l'objectif de la censure n'est pas à tout prix d'interdire l'accès à l'information, mais c'est de dire, vous avez accéder à une information non autorisée, nous en avons la trace, la preuve.
Séverine Arsen est politologue et sinologue. Elle étudie la stratégie chinoise de gouvernance, pour ne pas dire de contrôle, de son cyberespace. Elle me raconte, depuis Hong Kong, comment Pékin a progressivement accompagné l'émergence d'acteurs chinois du numérique. Avec tout de suite un encadrement très strict, loin du laisser-faire à l'américaine.
En Chine, l'ouverture des services Internet commerciaux, d'abord, elle se fait principalement par des sociétés qui sont des sociétés d'État. Et ensuite, c'est seulement la couche de services qu'on va pouvoir utiliser sur Internet qui vont pouvoir être fournis par des sociétés privées. Donc le fait qu'on parle de fournisseurs d'accès à Internet, qui sont les grands opérateurs de téléphonie, qui sont simplement 2, 3, 4 acteurs qui sont faciles à réguler et à contrôler. L'effort de contrôle qui se fait en même temps qu'on va donner cet accès à la population, c'est un effort de création d'administrations qui vont être en charge de ce domaine, donc vraiment des nouvelles formes de gouvernance. On va créer un ministère de l'industrie de l'information en 1998, par exemple, qui deviendra en 2008 un ministère de l'industrie et des technologies de l'information. En 2014, une administration du cyberespace de la Chine qui devient l'interlocuteur principal sur ces sujets. Donc on crée vraiment la capacité à gouverner de manière de plus en plus centralisée. Et puis, dès les années 90 aussi, on va créer des technologies de filtrage des données pour pouvoir bloquer l'affichage des sites Internet à l'étranger qui sont considérés comme portant des informations sensibles, ou pour pouvoir repérer des mots-clés qui circulent sur l'Internet chinois. La raison pour laquelle j'ai insisté sur l'aspect administratif, c'est qu'il est en fait l'élément le plus important en ce qui concerne les activités sur l'Internet chinois à l'intérieur du pays. Parce qu'on va responsabiliser les intermédiaires à travers un système de licence. Donc tous les sites Internet qui accueillent des contributions de leurs usagers, des blogs, des forums, même des jeux vidéo, sont responsables des contenus postés par leurs utilisateurs. Et les autorités leur envoient régulièrement des consignes avec des listes de thèmes ou de mots qu'ils vont devoir empêcher, bloquer sur leur site. Mais cette censure, elle est donc principalement faite par ces sociétés privées elles-mêmes et à leurs frais.
2006. Certains jeunes sont prêts à voler, à tuer, à frapper leurs parents pour se procurer l'argent nécessaire pour jouer sur Internet.
Depuis le début du mois de septembre, les pouvoirs publics ont décidé de réagir. Première mesure, l'interdiction des webbars aux mineurs. Interdiction aux mineurs et listing des sites consultés, transmis directement à la police.
En 2006, on parlait de 123 millions de Chinois en ligne. En 2021, le cap du milliard vient d'être franchi. On parle parfois de la Chine comme d'un immense atelier de contrefaçon. Une stratégie qui, appliquée au numérique, a permis à la Chine de devenir très vite une puissance technologique de premier plan. Au point aujourd'hui de parvenir à exporter ses applications, voire d'inspirer de nouveaux modèles d'affaires, aussi peu respectueux de nos vies privées que leurs homologues américaines.
Si on en revient un peu à notre chronologie du développement d'Internet en Chine, dans les années 2000, on a des grands services internationaux qui vont être copiés d'abord, puis adaptés avec des options qui vont mieux correspondre au marché chinois. Et puis le rôle de la censure des grandes plateformes internationales qui va donner de la place aux sociétés chinoises pour se développer un peu plus. Mais après les années 2000, les sociétés chinoises elles-mêmes vont devenir plus puissantes. Elles vont disposer aussi de plus de marge de manœuvre pour recueillir des gros volumes de données, parce qu'elles sont moins régulées sur ce plan. Et elles vont aussi vraiment développer l'utilisation des algorithmes avec des modèles d'affaires qui vont être très, très originaux et qui maintenant sont copiés dans le reste du monde.
2019.
Cette année, nous nous sommes fixés un nouveau challenge. Un smartphone capable de compléter, grâce à l'intelligence artificielle, la symphonie inachevée de Schubert. Derrière cette démonstration de force technologique, Huawei, géant chinois des télécommunications.
La Chine a ses propres géants du numérique, les Baidu, Alibaba, Tencent ou Xiaomi. Elle a même TikTok qui colonise peu à peu nos écrans. Mais pas une semaine ne se passe sans que le pouvoir chinois ne renforce son emprise sur Internet. En Chine, la géopolitique n'empêche pas les affaires de prospérer, mais c'est aux politiques de décider, de fixer le cap. Et sous Xi Jinping, tout écart vis-à-vis de la ligne peut être sanctionné.
En Chine, une entreprise a le droit de gagner de l'argent, a le droit d'être capitalistique. Mais la condition pour gagner de l'argent, c'est que vous soyez au service du pays et du parti. C'est-à-dire dans toutes les grandes entreprises chinoises, vous avez un représentant de l'État qui siège au board et ce représentant a un droit, je dirais quasiment, de veto. Donc ce qui veut dire que la Chine a ses acteurs hégémoniques et ces acteurs hégémoniques peuvent être repris quand le gouvernement le veut. On en a vu l'exemple parfait avec Alibaba et le dirigeant de Alibaba qui a été inaccessible pendant un certain nombre de temps. On voit bien que le gouvernement chinois, dans son précaré, a une capacité de régulation économique par le biais d'organismes de régulation, mais il y a aussi une forte capacité de régulation de l'État. Ce qui, d'un certain point de vue, pourrait être aussi conçu comme une bonne chose, puisque cette capacité permet au gouvernement chinois d'avoir une stratégie. Si vous avez des acteurs qui en font qu'à leur tête, il n'y a pas de possibilité de stratégie au niveau gouvernemental. Donc, aujourd'hui, nous sommes confrontés au niveau international à cette contradiction, à cette confrontation de modèle de gouvernance politique qui est le modèle, je dirais, démocratique et le modèle du tyran éclairé. Ce qui me chagrine, c'est qu'il y a 10 ans de ça, quand j'allais en Chine, j'entendais ce discours du tyran éclairé, du fait qu'il faut contrôler l'information qu'il y a sur le réseau pour des raisons de stratégiques, pour des raisons d'indépendance, de souveraineté, mais aussi pour des raisons de sécurité. Et il y a 10 ans de ça, j'avais l'impression naïve que la direction de l'histoire, c'est que le discours chinois va s'occidentaliser. La Chine va s'ouvrir, elle va être obligée pour des raisons économiques à s'ouvrir. Malheureusement, après 10 ans, ce que j'observe, c'est que c'est l'Occident qui s'est sinisé. Tout l'argumentaire que j'entendais il y a 10 ans en Chine pour faire du contrôle du contenu sur Internet, aujourd'hui je l'entends dans la bouche du ministre de l'Intérieur en France. De ce point de vue, l'aventure TikTok durant la période Trump a justifié, a validé la totalité de l'argumentaire chinois. Pourquoi il faut que les acteurs étrangers ne soient pas présents sur le sol chinois. Et aujourd'hui, nous sommes dans une validation au niveau de la gouvernance de l'Internet par le biais d'un certain nombre d'argumentaires de souveraineté, de la vision du tyran éclairé.
L'optimisme des années 2000 paraît bien loin. Il faut se souvenir que pour la diplomatie américaine, de Bill Gates à Barack Obama, les autoroutes de l'information devaient nécessairement conduire à la victoire par chaos des idées démocratiques sur l'autoritarisme. La fin de l'histoire avait un nom, Internet. Internet considéré comme un immense forum réunissant les sociétés civiles du monde entier, avec, pour horizon, la société de consommation. Alors, l'Europe dans cette histoire? L'Europe pourrait paraître absente. Pourtant, elle ne l'est pas. C'est même elle qui, en créant le web, a contribué à la démocratisation du net. Elle l'a créé en pensant partage des connaissances, accès à l'information et participation des internautes. Mais ça, c'était sans compter sur l'esprit d'entreprise des Américains. C'était Une histoire politique d'Internet, un podcast de Julien Lebotte. Réalisation Clotilde Pivin. Mixage Claude Niort.